Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Départ. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Georges Latour entre dans le bureau de son grand-père. C'est une grande pièce sombre, avec devant la porte-fenêtre un bureau. Contre mur, une grande bibliothèque. Sur un autre, un canapé en cuir marron. Les meubles sont en chêne rustique. Lorsque Georges entre, son grand-père est en train d'écrire à son bureau. Il est habillé d'une robe de chambre en soie bordeaux. Il lève sa tête maigre, ridée et chauve.
« Oh, c'est toi, Georges !»«
Oui, grand-père. »«
Approche, mon petit. »
C'est ce qu'il fait. Georges est grand, mince, le visage fin et les cheveux châtains. Il est habillé d'un pantalon et d'une chemise blanche. Il s'assoit en face de son grand-père. Qu'est-ce que tu écris, grand-père ?
J'écris sur la nature. Je commence seulement. Alors j'ai écrit quelques idées comme cela. Écoute. La nature ne connaît pas la morale. C'est une idée des hommes. D'ailleurs, aucun fait et geste n'est contre nature. C'est la nature qui nous apprend à tuer pour nous défendre. La loi du plus fort nous pousse à tuer. Tous nos instincts, bons ou mauvais, sont naturels, mais ils deviennent bons ou mauvais aux yeux de la société. Un père qui tue son enfant est immoral. Mais par contre, nature. Les ours tuent leur progéniteur. L'homme dit aussi que certains produits ne sont pas naturels. Presque tous les produits le sont, puisqu'ils ont été fabriqués par des produits naturels. Une femme qui met dans de l'eau des légumes de toutes sortes avec du sel et qui les fait bouillir, on dit que c'est de la bonne soupe, bien naturelle. Une usine de produits chimiques fait la même chose. Elle prend des produits naturels, elle les mélange pour en faire quelque chose d'autre. Ce qui fait que tous ces produits dits chimiques sont faits comme la soupe. C'est naturel. Il y a des mélanges de produits naturels qui sont nuisibles et dangereux, mais ils sont malgré tout naturels. C'est comme la nature. Elle a créé toutes sortes de plantes bêtes qui sont bonnes ou dangereuses à l'homme. Il y a des champignons qui sont bons et d'autres dangereux. Il y a des vaches et des scorpions. Mais ce qui est mauvais, nuisible, ne veut pas dire pas naturel, contre nature. Pour ce qui est de ce que nous fabriquons, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a très peu de choses qui doivent être non naturelles.
Eh bien, grand-père.
Ensuite, j'ai cherché quel était l'aboutissement de la nature. Pour moi, c'est la perfection. Et qui dit perfection, dit Dieu. Donc l'aboutissement de la nature, c'est de créer Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé la nature, Mais le contraire, la perfection de la nature, c'est l'esprit pur, qui n'a besoin de rien, absolument rien, et qui est ignoble.
Pour toi, Dieu n'existe pas encore, et si l'aboutissement de la nature, c'est la perfection, c'est d'après toi l'esprit pur. Lorsque Dieu sera créé, il n'y aura plus rien.
Oui, il n'y aura plus rien, le néant, car Dieu, l'esprit, n'a besoin de rien.
Et comment va-t-elle arriver à cela?
Par l'évolution. Regarde sa dernière née. L'être humain s'éloigne déjà de la nature. Il vit moins d'instinct que les autres espèces. Il se protège de la nature et essaye de l'adopter à une vie intérieure et... et psychique plus forte que les autres et capable de s'imaginer des choses hors nature, dans son propre imaginaire. C'est déjà un stade vers l'esprit. Mais la nature, en créant l'être humain, a fait des erreurs. Et ces erreurs ralentissent l'évolution de l'espèce en lui donnant trop de pouvoir. Ce qui fait qu'elle essaye de transformer la nature ou de l'adopter. Et en ayant une période de vie trop longue par individu. Car plus la moyenne de vie est longue, plus longue se fait l'évolution. Voilà, mon petit, ce à quoi je m'amuse. Que veux-tu que je fasse? Je ne peux pas sortir, le moindre exercice me fatigue. Je vis que le temps où la souffrance me laisse en paix. Heureusement que les médicaments me font effet quelques heures par jour.
Il hausse ses épaules.
Je passe mon temps à écrire, lire le dictionnaire. Je t'envie et t'aime, d'autant plus que tu vas partir.
Je pars demain matin, grand-père.
Tu pars où?
En Amazonie, pour faire un stage d'ethnologie.
Tu en as de la chance.
Je penserai à vous, grand-père.
À ton retour, je ne serai plus là.
Ne dis pas cela. Georges se lève. Se penche vers son grand-père et l'embrasse. Au revoir, grand-père.
Au revoir, mon petit. Ne tarde pas à revenir.
Je reviendrai le plus vite possible, je te le promets. Et il sort de la pièce. Longe un couloir. Et sort de la maison. Devant la maison, c'est une terrasse pleine de fleurs. Assis sur une chaise de jardin blanche, devant une table, une jeune fille en short et chemise blanche, les cheveux châtains mi-longs, Georges s'approche d'elle. Il s'assoit à ses pieds. Demain, c'est le grand jour, petit frère. Oui, Nathalie, tu en as de la chance. Moi, si je pouvais m'en aller, j'en ai marre de cette vie, de la famille. J'ai besoin de respirer, d'être libre. Pourquoi ne pars-tu pas? Elle hausse les épaules. Par lâcheté, peur de la vie, je suis comme un oiseau qui a toujours vécu en cage. Les grands espaces me font rêver, mais en même temps, ils me font peur. Alors reste dans ta cage. Ne te moque pas de moi. Je partirai moi aussi. J'ai besoin de vivre. Et que feras-tu? Je n'en sais rien. Je ne sais même pas me servir de mes ailes. Toi, je t'envie. Tu t'en vas, mais tu sais où tu vas, ce que tu vas faire. Tu as un fil à la patte qui te relie à ce que tu laisses derrière toi et pour le retour aussi. Ne dis pas cela, je vais avoir l'impression d'amener avec moi toute la maison. C'est un peu cela. Tandis que moi, je veux partir en laissant tout derrière moi. Je ne veux même pas des souvenirs. Fais-le. Je le ferai. George se lève, se penche vers elle et... Je te dis au revoir ce soir. Demain, en partant, je ne veux voir personne. Il se penche vers elle et l'embrasse. Tu sais, George, ça fait quelque chose de te voir partir. Je t'envie. Il se redresse. Arrive qui se frotte à ses chaussures, cri-cri, le chat de la maison. C'est un bâtard gris. George le prend dans ses bras et l'embrasse. Où est mère? Elle est à la cuisine. George va jusqu'à la maison. C'est une grande maison d'un étage, blanche, moderne. Avant d'entrer, il met le chat à terre. Il retrouve sa mère qui prépare la macédoine d'orange. Elle est debout devant une bassine en cuivre. C'est une femme grande, maigre, cheveux bruns, visage osseux. Elle porte une blouse bleue. Il lui donne un baiser dans le cou et va s'asseoir en face d'elle.
Non, mais au monde un enfant, l'on croit qu'il vous appartient. Une fois élevé, il vous quitte.
Vous n'êtes pas heureuse, maman, de me voir partir, travailler en Amazonie?
Qu'est-ce que ça me fait, moi, l'Amazonie? J'aimerais mieux que tu restes avec nous.
Je ne peux pas rester éternellement avec vous, mère. Il faut que je vive ma vie, moi aussi.
Oui, bien sûr.
Et puis, je reviendrai, je ne pars que 6 mois.
Mais tu nous reviendras comment?
Je serai un homme. Avec une cuillère, elle tourne la macédoine.
Parce que pour être un homme, il faut partir.
Oui, mère, pour apprendre la vie. Et souvenez-vous de la Bible, tu quitteras ton père et ta mère. Vous aussi, vous avez quitté vos parents.
Oui, mais pour fonder une famille et non pour partir à l'aventure.
Je ne pars pas à l'aventure, je vais travailler.
Tu aurais bien pu choisir autre chose comme métier. Notaire, par exemple.
Comme père?
Il hausse ses épaules.
T'es à l'opposé de ce que j'aime.
Elle pose la cuillère sur la table.
Il se lève. Mère, je suis venu vous dire au revoir.
Mais demain matin...
Non, j'aime mieux partir sans voir personne.
Il va vers elle.
La prend dans ses bras. Elle a les larmes aux yeux. Il l'embrasse. Ne pleurez pas. Je reviendrai, nous ferons une grande fête.
Il l'embrasse et sort de la pièce. Elle s'assoit sur la chaise qui est à côté d'elle et essuie ses yeux avec son mouchoir. George frappe au bureau de son père.
Entrez!
Il entre.
«
Ferdinand est à son bureau, debout, à trier des papiers. C'est un homme grand, maigre, chauve sur le devant, a une petite moustache noire et des lunettes en métal. Il est habillé d'un costume gris. La pièce a une grande baie vitrée et les meubles sont modernes. Georges s'approche de lui.
Alors, tes affaires sont prêtes ?
Oui, père, et je suis venu vous dire au revoir.
Déjà ?
Oui, ce soir je pars sur une soirée chez des amis et demain matin j'aimerais mieux m'en aller sans voir personne.
Et ta mère?
Je lui ai déjà dit au revoir. Le père soupire.
Je tiens à te dire une chose, mon petit. C'est que je n'avais pas tellement approuvé le métier que tu avais choisi. Et maintenant que je te vois partir, je comprends le courage qu'il te faut pour quitter et aller se perdre loin du monde. Je suis fier de toi.
Merci, père. Mais pour moi, ce qui est difficile, ce n'est pas de quitter cette vie bourgeoise, mais d'être obligé d'y vivre. Je ne suis pas faite pour une vie stable et tranquille. J'aime la vie, l'aventure, l'inconnu. Le père continue à ranger ses affaires.
Tu es jeune, c'est normal, mais tu verras plus tard.
Plus tard, j'aime mieux ne pas y penser.
Pourtant, il le faudra bien.
Non. Si pour penser pour plus tard, c'est vivre comme tout le monde, autant être au fond d'un puits.
L'aventure peut aussi te mener au fond d'un puits. Combien d'aventuriers se sont retrouvés gisant au fond d'une cabane au milieu de la brousse, mourant sans la moindre aide. Bon. Tu pars. Ne pensons pas à tout ceci. Je te souhaite bon voyage. Maintenant, laisse-moi finir mon travail.
Au revoir, père.
Et Georges quitte le bureau. Sa voiture, il va rejoindre un groupe d'amis pour passer sa dernière soirée. Sa voiture au garage, la maison dort. Il ouvre la porte d'entrée en évitant de faire du bruit. Monte à l'étage. Entre dans sa chambre. Sur son lit se trouve un sac à dos à moitié rempli, à côté des piles de linge. Il termine de remplir le sac à dos. Le ferme et le met à terre. Le reste de ses affaires sont déjà partis dans la voiture d'un ami qui les a déposés en consigne à la gare. Georges remonte son réveil. Et se couche tout habillé. Sonne. Il se réveille, fatigué, mal dormi, la langue porteuse, il se lève. Met ses chaussures et va dans la salle de bain. Il est retourné dans sa chambre prendre son sac et il descend les escaliers. En bas des escaliers, le miaulement du chat. Cri-cri, viens que je te dise au revoir. Viens, Cri-cri, n'aie pas peur. Se réveille à 8 heures, est angoissée, regarde le réveil.
Il est déjà parti depuis 3 heures.
Son mari se réveille.
Tu parles de Georges? Ne te fais pas de soucis. Il est très heureux de faire ce voyage. C'est une chance inouïe pour lui.
Je ne sais, mais tout de même, là-bas, en Amazonie, chez ces sauvages.
Le père hausse ses épaules.
Les sauvages, ils sont pas si sauvages que nous. Ils n'ont pas inventé dans leur forêt la bombe atomique ni le chômage.
Ils n'ont pas inventé la pénicilline non plus.
Qu'est-ce que tu racontes? Ils n'en ont pas besoin. Ils sont moins malades que nous. Allez, lève-toi. Prépare-nous le petit déjeuner.
La mère se lève. Met ses pantoufles. Et sort de la chambre. Une demi-heure plus tard, la mère, le père et la fille sont à la cuisine à prendre leur petit déjeuner. Le père demande
« Comment va grand-père ?»
La mère
« Ça peut aller ce matin, un peu agité, mais la piqûre semble lui faire de l'effet. L'infirmière dit que le médecin lui a dit que son état se stabilisait. »
Le père regarde sa fille qui fait grise mine.
« Pourquoi fais-tu la tête ?»
Je ne fais pas la tête, mais depuis le départ de Georges, j'ai l'impression d'avoir vieilli, d'être une vieille fille. »
Le père hausse ses épaules.
À ton âge, que sont frustrés et en infériorité parce que ton frère est parti. Tu as l'air bête au milieu de tes parents. Ton frère est parti que pour 6 mois. Et je t'assure, c'est qu'il va souvent penser à nous et qu'il te va t'envier d'être resté.
Cela m'étonnerait. Vous parlez d'une vie. que je mène ici ?
Elle finit de boire son café et sort de la cuisine. Sort de la maison. Elle voit le chat. Lui court après autour de la maison. Derrière la maison, elle voit que la porte de la cave à mazout, qui se trouve à terre, est mal fermée. Elle se penche et la ferme. Ouvrier hier en la remplissant. Il devrait bien faire attention, une personne pourrait tomber dedans la nuit. Elle prend le chat et le caresse. Les jours passent. Un jour vient chez eux une jeune fille. Elle est reçue au salon par la mère. C'est une jeune fille, grande, mince, blonde. Elle a un gentil sourire et est habillée d'une jupe plissée marine et d'une veste blanche.
Je m'excuse de vous déranger, madame, mais je m'appelle Camille Perret et j'aimerais avoir des nouvelles de votre fils Georges.
La mère s'approche d'elle.
Asseyez-vous, mademoiselle.
En lui montrant une chaise, la jeune fille s'assoit.
Je n'ai pas de nouvelles de Georges. Il est vrai que cela ne fait pas une semaine qu'il est parti. Vous êtes une de ses amies ?
Oui, cela fait un an que nous fréquentons. Votre fils est très gentil. Je ne voulais pas qu'il parte si loin.
Elle se met à sangloter.
« Ne pleurez pas, mademoiselle, il n'est parti que pour 6 mois. Vous voulez boire quelque chose pour vous remonter ?»«
Non, madame, je suis ridicule, mais j'aime beaucoup votre fils. »«
Vous vous êtes connu comment ?»«
À une conférence, à la sortie d'une conférence. Il pleuvait tellement. » Je ne savais comment faire pour rentrer. Il m'a vu devant le perron. Il m'a proposé de me raccompagner avec sa voiture. Pour le remercier, je lui ai offert un café. Nous sommes raccompagnés, nous sommes revus souvent. Je fréquente très peu de monde, à part Georges.
Je comprends. Si cela vous fait plaisir, vous pouvez venir nous voir quand vous voudrez.
Merci.
Et si vous n'avez rien à faire, vous pouvez déjeuner aujourd'hui même, ici, chez nous.
Oui, je veux bien, merci.
Et elle déjeune avec la famille. La mère l'a présentée et tous la trouvent gentille. Elle vient souvent les voir, mais la famille n'a toujours pas de nouvelles de Georges. Le temps passe. Nathalie est dans sa chambre, il est 1h du matin. Elle est habillée d'une robe beige et d'une veste en cuir marron. Elle porte à la main un sac de voyage. Elle regarde autour d'elle. Les murs de sa chambre sont bleu pâle. Les tentures et les dessus de chaises sont blancs à poids bleu. Le lit est fait. Sur le petit bureau, il ne reste rien. En dessus de l'armoire se trouve une poupée de chiffon. Nathalie a bien envie de la prendre.
Non. Si je pars, c'est pour être une femme.
Elle ouvre la porte. Et sort. longe le couloir. Descend les escaliers. Au rez-de-chaussée, elle ouvre la porte du bureau de son père. Entre et va vers le bureau. Il dépose une lettre, sa lettre où elle dit à ses parents qu'elle part, puis sort du bureau. Et de la maison. Dehors, la nuit est douce. Devant la maison, le chat. Cri-cri, cri-cri. Elle pose sa valise à terre pour le caresser. Puis, elle reprend sa valise et s'enfonce dans la nuit. Où elle va, elle ne le sait. Elle prendra le premier train qui arrivera, et en attendant qu'il arrive, elle dormira dans la salle d'attente. À 10h du matin, le père trouve la lettre. La lit et court retrouver sa femme à la cuisine. Elle épluche ses pommes de terre. Il s'approche d'elle avec la lettre.
Nathalie nous a quittés.
Le temps passe. Un jour vient leur rendre visite un jeune homme de 25 ans, grand, mince, cheveux bruns, visage agréable. Il est habillé d'un pantalon et d'un pull beige. C'est le père qui le reçoit au salon. Ils sont tous deux debout.
Je m'appelle Jean-Baptiste Serre. Je suis un ami de votre fils et j'aimerais avoir de ses nouvelles.
Nous n'avons pas encore.
Il est vrai que le courrier doit être long à circuler dans ces pays. Il fait les mêmes études que moi, votre fils. C'est quelqu'un, votre fils. Je suis sûr qu'il arrivera à quelque chose, à avoir un brillant avenir. Tout le monde l'aime beaucoup et nous sommes impatients de le voir revenir.
Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous pour déjeuner.
Oui, je veux bien. Merci.
Durant le déjeuner, il y a aussi Camille. Les jours passent. Tard dans la nuit, le grand-père est dans son lit. Il est en sueur. La famille est autour du lit. Ils sont en robe de chambre.
Je souffre, mais je suis heureux de partir, car je sais que je vais retrouver Georges.
La mère le regarde effaré, mais n'ose rien dire, il doit délirer.
Georges est parti, mais par où vous croyez? Quelque chose me le dit.
Il fait la grimace, se soulève, se raidit. Pousse un cri
et retombe sur le lit inanimé.
Un jour, Camille demande un entretien aux parents de Georges.
Ils la font asseoir au salon. Et eux s'assoivent en face d'elle. Je n'ai pas osé vous le dire, mais il faut que je vous le dise. Voilà, je suis enceinte de 4 mois de Georges. La mère sursaute.
Qui me prouve que c'est de notre fils.
Vous le lui demanderez. Je n'ai connu que lui et j'étais vierge lorsque je l'ai connu.
Cela ne prouve rien. Vous avez pu tromper notre fils durant votre liaison.
Lorsque vous le reverrez, vous lui demanderez.
Que comptez-vous faire?
Rien. J'attendrai et nous déciderons, moi et lui. J'aimerais, c'est que nous puissions vivre ensemble. Le père se lève et fait les 100 pas. Le chat tourne autour des pieds de Camille.
Vous n'avez pas de situation tous les deux. Vos études ne sont pas finies. Ce serait gâcher votre vie. Il faut penser à votre avenir. Faites-vous avorter.
Il est trop tard. Le père s'arrête de marcher.
Alors, que faut-il faire?
Attendre, Georges, la mère dit.
L'enfant risque de naître avant qu'il ne revienne. Comment allez-vous faire toute seule?
Je me débrouillerai. La mère regarde le père.
Gardons-la avec nous. Nous ne sommes comme tous les deux.
Le père hausse les épaules.
Comme tu voudras.
La mère se lève et s'approche. De Camille qui se lève.
T'apporterai vos affaires et logerai dans la chambre d'amis.
Elle l'embrasse.
Merci, madame.
C'est la moindre des choses. Je ne peux pas vous laisser seule. La mère de l'enfant de mon fils. C'est très désagréable tout cela, mais enfin, une naissance. Nous attendrons Georges ensemble.
Les jours passent. Camille vit avec les parents de Georges. Le père s'est fait une raison, et puis, puisque sa femme semble heureuse, elle prépare le trousseau et pense que ce sera un garçon. Cela l'occupe et lui fait moins penser à l'absence de ses enfants. Jean-Baptiste vient souvent voir la famille. Il se met malgré lui à aimer Camille. Le père aime beaucoup ce jeune homme sérieux, la mère et Camille aussi. Un jour, ils sont tous dans le jardin et chacun parle d'avenir et du retour de Georges. Chacun rêve, mais l'avenir n'est jamais ce que l'on croit, car l'on ne connaît pas tout du présent, s'ils savaient, mais ils ne le sauront pas avant de nombreux mois. Par contre, vous, lecteur ou auditeur, vous le saurez maintenant, car vous ne pouvez attendre si longtemps. Georges, avec son sac au dos sur le dos, en ouvrant la porte pour quitter la maison, a laissé filer le chat. Il a fermé la porte de la maison et a couru autour de la maison pour le rattraper. Il est tombé dans la cuve à mazout qui est restée ouverte par inadvertance par les ouvriers qui l'ont remplie. En tombant, il a voulu s'agripper à la trappe, mais elle s'est refermée en partie sur lui. Cela s'est si vite passé qu'il n'a pas eu le temps de crier. Il est mort sur le coup. Le lendemain matin, Nathalie a fini de fermer la trappe. Le corps ne sera découvert que l'année suivante, car la cuve est très profonde et l'hiver n'a pas été vigoureux. garçon. Elle a continué à voir les parents de Georges et, comme elle est orpheline, les parents se comportent en grands-parents. Puis Camille s'est mariée avec Jean-Baptiste, mais tous deux continuent à voir le père et la mère de Georges. Quant à Nathalie, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le départ. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.